Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Mais bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, j'ai soutenu cette semaine un livre du docteur Cabanès, notre voisin du docteur Cabanès, qui est originaire de Gourdon et ce livre s'intitule « Les secrets de l'histoire ». Et il est édité par Flammarion en 1938. Bon, c'est pas tout récent. Et il y a bien sûr plusieurs chapitres qu'on va voir un peu en détail, sans s'y attarder trop longtemps. Il y a l'énigme du masque de velours, pourquoi s'est-il suicidé, le coup de canifle d'Amiens, le coup de pistolet du gendarme Merda, Louis XVII est-il mort dans la prison du Temple, et puis Louis-Philippe est-il le fils de geôlier? Et bien sûr, il y a là une grossesse, un chapitre qui nous intéresse tout particulièrement et qui s'intitule « Une grossesse historique ». Alors, cette grossesse historique, c'est la Duchesse de Berry et qui va nous permettre de rencontrer un périgourdin célèbre, le général Bugeaud, qui n'était pas encore maréchal. Voilà. Alors, pour le docteur Cabanès, je vais quand même en dire quelques mots. Il a comme prénom Augustin Cabanès, donc est né le 30 avril 1862 à Gourdon, comme je le disais, et il est mort à Paris en mars 1928. Et c'est un médecin, journaliste et historien de la médecine français, bien évidemment. Alors, docteur en médecine à la faculté de médecine de Paris, médecin à la préfecture de la Seine, secrétaire de la société médico-historique. Alors en 1880, il commença ses études médicales à Bordeaux et vint bientôt à Paris suivre les cours des écoles de médecine et de pharmacie. En 1881, il fut reçu à l'internat des hôpitaux de Paris. En 1889, il soutenait sa thèse de doctorat en médecine avec une étude physiologique, clinique, botanique et thérapeutique. Alors de bonne heure, attiré par les lettres, Cabanès avait fait ses études et en 1885, dans les recherches spéciales auxquelles il devait se consacrer par une étude sur les souverains névropathes, travail qui parut dans le Progrès médical. En 1887, il fut chargé du feuilleton et du premier Paris, au journal de la médecine de Paris de la France médicale. Il écrivit de nombreux articles sous le pseudonyme du docteur Quercy, et même à la Gazette des hôpitaux, au bulletin thérapeutique, etc., etc. Voilà, il avait la plume facile. Alors Cabanès aborda ensuite les revues littéraires, la revue hebdomadaire, la grande encyclopédie, la Bévue des Bévues, le magasin pittoresque, et des journaux plutôt plus politiques comme le Figaro, le Gaulois, le journal, l'Éclair, etc. Alors en décembre 1893, Cabanès fonda la chronique médicale, qui est un bimensuel où il publiait des articles inédits sur la santé des personnages de la littérature et de l'histoire, sur les relations de la médecine avec l'histoire de la littérature, l'art, la sociologie, l'économie politique et bien d'autres choses. Les nombreux travaux convergeant tous vers le même but ont provoqué le réveil de la critique médicale historique en expliquant maintes énigmes de l'histoire restée indéchiffrable. Outre sous le nom de plume du docteur Quercy, comme on l'a dit, également écrit, entre autres, sous celui du docteur Fernel. Alors, il est l'auteur, j'ai regardé à peu près, il est l'auteur d'une cinquantaine, d'ouvrages, tant professionnels qu'historiques. Alors, la ville de Gourdon fit lever un monument souvenir qui se trouve dans le cimetière. Alors, si vous allez sur Gourdon, quand vous venez de Grosjac ou de Sarlat, avant d'arriver tout à fait dans la ville, en haut de la côte, sur la droite, il y a le cimetière et donc le monument souvenir du docteur Cabanès. Voilà, alors il y a un ouvrage intitulé « Grand historien, le docteur Cabanès », publié par Albin Michel en 1929, renferme les discours prononcés lors de l'inauguration du monument. Et puis, il y a un boulevard qui porte son nom sur le tour de ville, je ne sais pas si vous connaissez Gourdon, qui est construit sur un dôme, et il y a une rue qui fait, un boulevard qui fait tout le tour. Voilà, et donc il y a une partie de ce boulevard qui porte le nom du docteur Cabanès. Et puis, personnellement, je remercie la personne de la mairie de Gourdon qui m'a indiqué l'emplacement du monument dédié au docteur Cabanès. Voilà, alors donc on va feuilleter un peu ce livre. Voilà, alors il commence par une histoire un peu rocambolesque. La duchesse de Berry qui donnait quelques problèmes au roi Louis-Philippe. Alors donc voilà ce qu'on nous dit. Alors bien sûr on va rencontrer bien sûr le général Bugeaud. Alors le général, il était que général à l'époque, général Bugeaud ne devait pas démentir l'espoir qu'avait fondé le gouvernement sur son dévouement pour son zèle. Le 31 janvier, il recevait sa nomination. 3 jours après, il prenait possession de son poste, c'est-à-dire à Blaye. Alors, voilà ce qu'on nous dit, toutes les apparences de la duchesse de Berry, bien sûr, qui attendait un heureux événement. Alors, toutes les apparences sont celles d'une grossesse très avancée, écrivait le gouverneur au ministre. Donc, c'est une date qui date du 11 février, mais ce qui déroute, c'est sa gaieté. Elle chante, elle fredonne, elle joue avec ses perruches et son chien. Elle plaignait en musique son caniche qui a mal à la patte. Tout me fait supposer que si elle est dans l'état qu'on suppose, elle a un mariage supposé tout près. Alors, les apparences de grossesse sont déjà si prononcées lorsque la duchesse est tout à fait habillée. Et ce le sont bien davantage encore lorsqu'elle est en déshabillée du matin avant que le corset ne soit mis. Le général Bugeaud, évidemment, pousse l'indiscrétion jusqu'aux extrêmes limites et rentre dans les détails les plus intimes, ainsi qu'en témoigne les rapports à son chef direct, le ministre de la Guerre, alors président du Conseil, son Excellence, bien sûr, le maréchal Soult. Il est initié par lui au mystère ordinaire supposé de l'alcool. Alors, on va continuer un peu plus loin ce récit. Voilà ce qu'on nous dit, il y a eu un moment de répit. Mais bientôt la princesse poussa un cri très aigu en disant « Je ne puis me retenir, j'accouche ». Au même instant, les vagissements de l'enfant se firent entendre. La princesse le dit « Oh mon Dieu, il crie bien fort, serait-ce un garçon ?» Monsieur Deneux découvrit la princesse et dit « Soyez satisfait, madame, c'est une fille. » « J'avais bien dit, reprit-elle, me croirez-vous une autre fois ?» Il était alors 3h20. Pendant ce temps, M. Denet fit la ligature du cordon ombilical, le coupa, prit l'enfant et le donna à Mme Amsler. J'allais vers le général qui me dit, si vous le jugez convenable, annoncez la princesse que j'ai en poche une dépêche ministérielle qui lui fera bien plaisir. Tout ira au gré de ses souhaits. Je m'empressai de faire cette commission avec les ménagements convenables et la duchesse en éprouva une grande satisfaction. Elle témoigna alors l'envie de voir Madame d'Hautefort. On alla la prévenir et elle vint bientôt. Un instant après, la princesse ayant aperçu le général me dit « C'est M. Bugeaud, priez-le d'entrer si cela lui plaît ». Le général entra aussitôt. La princesse lui tendit la main et lui dit « J'espère que tout ira bien ». Le général lui en donna l'assurance et tirant de sa poche la dépêche télégraphique reçue hier soir, il lui en donna une partie, ce dont elle le remercia avec effusion. Alors, pendant qu'il se retirait, donc le général, il lui dit, général, vous avez 2 filles, en voici une 3e, vous êtes comme mon père. Le général l'invita à se calmer, il lui dit que les témoins seraient admis en sa présence aussitôt qu'il conviendrait, répliqua qu'elle les recevrait quand on aurait arrangé son enfant et réparer le désordre de l'appartement. Alors, bien sûr, il y a cette histoire, mais il y a une histoire un peu rocambolesque qui se situe quelques jours avant, qui se situe à Nantes. Alors, elle était bien sûr pour chasser, le roi Louis-Philippe n'avait de crainte, parce qu'il y avait bien sûr une histoire de succession. Alors, voilà ce qu'on nous dit, laissez-vous transporter comme par un coup de baguette féerique à Nantes. Vous voilà rue Haute du Château, numéro 3, chez les demoiselles du Guigny. Alors, donc ils arrivent, bien sûr, la police arrive, mais il y a un repas qui est servi pour plusieurs personnes. Il n'y a rien que de très naturel en cela, puisque nous attendions 4 autres invités. Mais réplique le commissaire, la soupe a été mangée, le bouillet servi sur la table a été découpé en parties. Et ce n'est pas la manière la plus à Nantes qu'à Paris d'attendre des convives. Voilà, alors, bien sûr, il va être découvert. Alors les sentinelles ayant été placées dans tous les appartements, le chef civil de la troupe, le commissaire Joly montait droit à la mansarde. Sur son ordre, les meubles étaient ouverts ou enfoncés, les planchers et les murs sondés à grand bruit, mais on ne découvrait toujours rien. Une circonstance imprévue avait donné la clé du mystère. Deux gendarmes, postés dans une petite pièce dont la lucarne s'ouvrait sur le toit, souffrant du froid et voyant une alliance de numéros de la mode, alors c'est un journal, c'est une publication, protégée et payée par la duchesse de Berry, singulière coïncidence, avisèrent de les empiler dans la cheminée et d'y mettre le feu. Quelques minutes après, tandis qu'accroupis devant le foyer, ils dégelaient leurs doigts et crurent entendre un bruit insolite derrière la plaque. Bientôt on y frappe, à coups redoublés, on appelle les officiers, on s'en de retirer les papiers enflammés et les plaques cédant aux efforts mutuels des assiégeants et assiégés, tournaient sur ses gonds. La plaque était rouge des deux côtés et quand on entendit une voix qui s'écriait « Nous nous rendons, nous sommes vos prisonniers !» et l'on vit sortir une femme à demi asphyxiée, c'était la duchesse de Berry. Une seconde femme et deux hommes apparus à leur tour et portaient de nombreuses marques de brûlures. Alors les cheveux de la princesse étaient roussis, sa figure, ses mains toutes noires de fumée, le pan de sa robe en contact avec la plaque de cheminée était brûlé pour éteindre le commencement d'incendie. Les malheureux enfermés avaient eu recours, dit-on, à leur propre terme, à leur mouchoir imbibé de pipi. Ça ne devait pas se sentir très bon. Enfin voilà. Alors que voulez-vous, compta plus tard au docteur Ménière, la situation était vraiment horrible. On allait bannir toute cérémonie à la guerre comme à la guerre. Le baron de Ménard avait toujours sur lui des morceaux de sucre, il lui fut en l'occurrence de grand secours. Avant que la duchesse fût séparée de l'avocat Guibourg et de mademoiselle de Kersabiec, enfermée avec elle et le baron de Ménard dans la cheminée, mademoiselle de Kersabiec avait eu le temps de coudre à la ceinture du pantalon de l'avocat un billet écrit au crayon par madame. Voilà. Alors bien sûr, le gouvernement de Louis-Philippe triomphé, il avait mis la main sur celle dont les menées lui causaient tant d'inquiétude. Alors, on va retrouver bien sûr le général Bugeaud. Alors, voilà un peu la suite de cette lecture. Cependant, bon, les témoins étaient arrivés et tous étaient disposés à les recevoir. Ils entrèrent dans une chambre de la princesse générale en tête. Monsieur le président du tribunal civil adressa à son Altesse royal, et oui, il y avait un problème de succession, à la tête du royaume. Alors les questions que vous savez, et tout se passa promptement, elle mit beaucoup de bonne grâce à répondre et à saluer à ces messieurs quand ils s'éloignèrent. Alors, bien sûr, il y a une conclusion. Donc le 5 juin 1833, la princesse y a déclaré que sa santé lui permettait de supporter les fatigues de la mer. On donnait l'ordre d'appareiller pour Palerme, où l'attendait son mari en réalité. Elle avait désigné comme sa future résidence le 8 juin l'embarquement de la duchesse de Berry et sa suite avait lieu, le canot d'un bâtiment de l'État, la capricieuse contenait la princesse et la nourrice de l'enfant accompagnée du général Bugeaud et accostait le bateau à vapeur, le Bordelais, et le départ effectué à 10h précises du matin par un temps magnifique en présence d'une foule énorme. Alors la traversée, malgré le vent contraire, se faisait avec une rapidité relative et le 5 juillet, le docteur Ménière et Deneux et les deux chirurgiens de la marine certifiés qu'à duchesse étaient remis au vice-roi de Sicile, son futur beau-père en parfait état de santé. Nous n'avons à dessein rien dit du père de l'enfant. L'historien et moins encore le médecin n'ont pas à soulever le voile, d'ailleurs très transparent, qui recouvrait certains actes. Rappelons seulement en terminant une anecdote que nous puisons dans une lettre qui n'était pas destinée à publicité et qui caractérise d'un mot la psychologie de l'héroïne. Armand de Pontmartin, le critique célèbre, écrivait au docteur Émile Ménière, c'était à Marseille en 1833, et les plus ardents et les plus naïfs légitimistes sentiraient en surnommant la duchesse de Berry Henri IV en jupon. Hélas, pourquoi faut-il que dans cette histoire, Henri IV ait eu des jupons et qu'Henri V, le petit bébé, ait eu si peu de culottes? Henri IV en jupon, la romanesque et hardie princesse, était marquée là d'un trait ineffaçable. Voilà, ben, j'en ai terminé donc cette histoire du docteur Cabanès et je vous donne rendez-vous et bien, ma foi, la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.